Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Il est 20h10, passé même de 2 minutes, 20h12, c'est l'heure de notre rendez-vous, le club de la presse numérique. Ce soir, nous nous interrogeons, pour terminer cette émission sur l'audiovisuel, plus spécifiquement sur les offres payantes de contenu audiovisuel, d'un point de vue notamment du consommateur. Et pour parler consommateur, nous avons Amel Guitton de Libération avec nous, Emmanuel Paquette qui est resté journaliste à L'Express. Alors pour les fans du Seigneur des Anneaux, l'œuvre de Tolkien portée à l'écran par Peter Jackson, le service de streaming qui propose ces films, c'est Netflix. Pour autant, Amazon est en train de produire une série inédite intitulée également Le Seigneur des Anneaux. Alors au-delà de la question de savoir quel service de streaming vidéo choisir, on peut se poser la question des limites de ce phénomène en cours. Faudra-t-il bientôt s'abonner à 5 services de streaming à la fois pour voir ses séries préférées? Car les acteurs se multiplient. En plus de Netflix et Amazon, on peut citer OCS, Orange Ciné-Série, Salto dont on a parlé en début d'émission, issu du partenariat entre TF1, M6 et France Télévisions, ou encore celui de Disney, Fox ou de la Warner. Pour commencer, un mot peut-être, Amel Guitton, sur l'offre en cours et à venir.
Alors effectivement, vous le disiez, on a de plus en plus d'acteurs, on a une offre qui se segmente. Bon, le champion, ça reste quand même Netflix hein, à ce stade. Plus de 130 millions d'abonnés au total. On est aux alentours de 3 millions,
3,35
en France, avec une offre qui va de 7,90 € vraiment pour de base, hein, jusqu'à 13,99 € pour la très haute définition. Et puis alors on a effectivement donc Orange Cinéma Série qui diffuse les séries HBO pour aux alentours de 10 € pour l'offre numérique, 12 € pour avec la télévision en plus. On a Amazon Prime qui a un abonnement annuel, hein, 49 € pour les clients Amazon Prime. Et puis alors on a effectivement on a Canal Play aussi hein, qui est un des acteurs installés sur ce marché. Et puis on a, vous le disiez, hein, tous ceux qui vont arriver à grand renfort d'ailleurs d'annonces. Hein, on sent qu'il y a une espèce
grand renfort de GAFA.
Hein, ouais, puis de course à l'échalote. Hein, y a Disney Fox, il y a Warner, il y a Apple aussi hein, qui a annoncé déjà des partenariats, un investissement d'$1 milliard l'année prochaine, Salto en France, enfin, on voit qu'effectivement, comme vous le disiez, hein, peut-être qu'il va falloir s'abonner bientôt à 5 ou 6 ou 7 plateformes de SVOD pour avoir un
l'offre
équivalent
de
séries et de films.
Emmanuel Paquette, sur cette offre qui se démultiplie comme ça.
Alors oui, c'est vrai que l'offre se démultiplie, mais c'est un petit peu comme dans le marché des télécoms. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui, que ce sont des offres sans engagement qui font que des gens regardent leur série préférée et dès que c'est terminé, ils quittent le service.
Ouais, on fait pas ça tous les jours avec Orange et Free, même si on peut changer.
Alors avec Orange c'est compliqué, mais avec Netflix, moi je l'ai fait à plusieurs reprises, hein, ça c'est en un clic. Donc et pour réactiver, ça prend un clic.
C'est-à-dire qu'on s'abonne lorsqu'on voit la série, une fois que c'est terminé, on va ailleurs.
Et donc la forte probabilité, c'est qu'on voit ce qu'on appelle un churn, donc un taux d'attrition assez élevé chez les opérateurs, des opérateurs de services, avec des gens qui quittent et qui s'abonnent en fonction de leur série de prédilection. Et donc il n'y aura pas de cumulation ou d'accumulation de forfaits où on paiera 5-6 services simultanément.
Alors on peut aussi dire qu'à l'époque, ou même encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui s'abonnent à Canal+, vous avez pour 40-50 €, au fond, c'est l'équivalent de 3-4 services de streaming à 10 €. Donc on peut imaginer aussi en même temps que vous allez peut-être pouvoir vous abonner à plusieurs services dans certains cas.
Bah, c'est la question qui va se poser, ça va être une question de budget à un moment donné quand même, sachant que la grande force du streaming musical, c'est notamment des deux acteurs dominants que sont Spotify et Deezer, c'est la taille effectivement de leur
catalogue.
C'est
qu'on a tout avec un seul abonnement.
Voilà, ce qui fait qu'une fois qu'on est abonné, globalement, on y reste. Hein, pour le coup, il n'y a pas du tout ce
pas besoin
churn
de partir, ouais,
dont parlait Emmanuel Paquette. Là, ça va dépendre aussi de la sociologie des publics. C'est vrai qu'on peut imaginer, dans le cadre d'un abonnement familial, d'avoir une ou deux ou trois plateformes. Pour un jeune public, ça peut être potentiellement plus compliqué. Ou alors, on va avoir effectivement ce phénomène de aller sur une plateforme, sans désabonner quand on a fini sa série, y revenir, etc. On risque aussi, faut quand même le dire, hein, de voir se perpétuer ce dont on a déjà parlé dans cette émission, en l'occurrence le téléchargement illégal, parce que pour peu qu'on ait un abonnement à Netflix et qu'on ait très
envie
de voir Game of Thrones sans s'abonner à OCS, c'est plutôt par là qu'on va passer quand même.
Emmanuel Paquette, pourquoi au fond, il n'y a pas, c'est une question un peu peut-être un peu rhétorique et interne à ces secteurs, mais pourquoi il n'y a pas une offre de type Spotify, c'est-à-dire une seule offre sur laquelle tout pourrait exister en termes audiovisuels et cinéma?
Bah, déjà plusieurs raisons, puisque aujourd'hui il y a une fragmentation des droits audiovisuels qui font que quand un studio américain veut vendre une série télévisée en Europe, soit elle a le choix de le vendre à un seul acteur et elle va avoir une somme X, soit elle va pouvoir le vendre à chaque acteur de chaque marché. Et donc la totalité de ses ventes vont être beaucoup plus importantes que si elle l'avait vendu qu'une seule fois. Donc il y a purement d'un point de vue purement économique, vaut mieux vendre plusieurs fois les droits à différents acteurs.
Sauf que c'est plusieurs fois des droits en exclusivité, parce que ça existe aussi avec les majors du disque. Et pourtant, Spotify propose une offre unique sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music, etc. Mais où on peut tout avoir, ou presque tout, par service.
Oui, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision étaient les premiers servis en série. Et donc, c'est elles qui dépensaient le plus d'argent, hein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Le coup de grille de TF1, c'est quasiment 1 milliard d'achats par an. Donc, si on multiplie ça au niveau de l'Europe, alors c'est pas 1 milliard par chaîne de télé en Europe, mais ça représente des montants qui sont extrêmement importants pour un studio. Et donc, un studio aura plutôt bénéfice et tout intérêt à vendre à chacune des chaînes de télévision, plutôt qu'à tout donner à Netflix et à Amazon. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des séries sur ces plateformes qui sont des séries plutôt anciennes, ou certaines exclusivités, mais qui sont vendues de gré à gré, en fait, à un des acteurs, pardon.
Amel Guiton.
Oui, puis c'est des acteurs qui sont à la fois diffuseurs et producteurs. C'est peut-être ça aussi la différence avec des Spotify ou des Deezer, qui sont quand même, à ce stade, me semble-t-il, essentiellement des diffuseurs. Alors que là, on sent que pour construire justement son parc d'abonnés, pour construire une offre, chacun investit de manière très forte dans la production. Et ça va probablement d'ailleurs augmenter encore, puisque Netflix, là, aujourd'hui, va être, par exemple, confronté à un problème très concret, c'est que les productions Disney vont en partir, puisqu'elles vont venir nourrir la plateforme de Disney.
Et celle de Fox aussi en même temps.
Et celle de Fox. Donc chacun va être obligé en réalité d'investir de plus en plus dans la production, sachant qu'ils y sont aussi poussés par les autorités pour soutenir le cinéma européen, notamment. On le voit avec tout ce qui se discute autour des quotas, par exemple, qui semblent embêter Netflix, mais ils sont probablement pas les seuls à dire que ça les embête bien quand même de devoir diffuser 30% d'œuvres européennes, mais il y a aussi cette pression-là qui se rajoute et qui fait qu'effectivement ils investissent de plus en plus dans la production et ça prend le pas quasiment sur la diffusion.
Comment l'utilisateur va savoir ce qui est disponible sur telle ou telle plateforme? On remarque que les stratégies de communication s'appuient davantage sur les contenus disponibles souvent que sur les plateformes en soi. On a du mal à savoir où trouver ou voir sa série. Comment est-ce que dans ce catalogue, et c'est la question aussi des algorithmes, comment est-ce que on se repère dans une production qui est de plus en plus immense avec un nombre de séries de plus en plus grand?
Il y a deux éléments. Le premier, c'est un élément qui est pas du tout algorithmique, hein. C'est les 4x3 dans le métro. En affichage dans les grandes villes, puisque dès qu'il y a une nouvelle série importante pour ces plateformes, elles communiquent dessus, donc on voit de la publicité à la télé. On voit des séries Netflix ou des séries Amazon où on peut avoir de la publicité à la télé. On voit de la publicité dans le métro, on voit de la publicité des 4x3 dans la rue. Donc ça, c'est de la télé, c'est de la publicité à l'ancienne pour attirer les gens avec une série sur leur plateforme. Et puis après, pour les conserver, l'idée, c'est à partir de la série qu'ils ont vue, essayer de recommander d'autres choses dans le catalogue disponible afin de rendre les utilisateurs accros et que surtout, ils ne quittent pas le service.
Mais ce qui d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, va devenir de plus en plus compliqué à partir du moment où l'offre devient très segmentée. Ça va devenir de plus en plus difficile de retenir ses abonnés, justement.
Oui, exactement. Ouais. Donc, y a de fortes chances que c'est ce qu'on voit. Alors, c'est ce que fait déjà Amazon, puisque l'idée, c'est comment faire en sorte de garder les utilisateurs, c'est de faire de l'événementiel, c'est-à-dire la retransmission sportive. Donc on voit qu'aujourd'hui Amazon achète des droits pour quelques matchs de foot, quelques matchs de NFL, de football américain aux États-Unis, des matchs, d'autres matchs sur lesquels aujourd'hui ils candidatent. Et ça permet de retenir les utilisateurs, puisque ça c'est des événements qui sont récurrents et donc c'est plus difficile de se désabonner pour se réabonner quand on veut regarder du sport.
Se pose aussi la question de la territorialité de ces contenus. La trilogie, je le disais en début de séquence, Le Seigneur des Anneaux, par exemple, ne sera a priori pas disponible sur Netflix France en novembre, contrairement à Netflix Grande-Bretagne. Les services sont donc plus ou moins riches selon l'endroit d'où on les utilise.
Ceci dit, ça c'est valable, valable y compris pour, je sais pas, l'offre du site d'Arte, par exemple. Enfin, il n'y a pas que Netflix. Hein, c'est toujours cette histoire du géoblocking qui continue à poser problème essentiellement aux utilisateurs, qui d'ailleurs souvent souvent le contourne. Hein. Enfin, c'est quelque chose d'assez connu qu'on peut s'abonner à tel ou tel service en utilisant un VPN pour justement typiquement contourner ce type de restriction.
Nous ne l'avons pas recommandé, mais on sait
non,
que
mais c'est un fait.
Ça existe
c'est hein, un
dans,
fait.
Dans, la, ouais. dans la vie réelle, peut-être.
Et donc il y a toujours des stratégies d'évitement mises en place par les internautes. Ouais.
Un mot sur l'offre de streaming qui devrait arriver donc de Disney et Fox en 2019. On sait déjà qu'on pourrait y trouver l'intégralité des films des franchises Star Wars et Marvel. Et le prix serait moins élevé, dit-on, que celui de Netflix, actuellement autour de 8 euros par mois pour le plus bas des forfaits. Qu'est-ce que l'arrivée d'un service piloté par la Fox et donc désormais par Disney peut changer à l'offre globale de streaming vidéo?
C'est vrai que pour l'instant, Disney avait un problème. C'est-à-dire que s'ils voulaient lancer un service de SVOD avec leur propre catalogue, ils pouvaient pas toucher le grand public parce que ils avaient...
Ils sont sur l'offre famille, l'offre enfant.
L'offre famille, enfant, adolescent et jeune adulte avec Star Wars. Mais au-delà, il y avait pas grand chose. Avec Fox, il y a du film d'horreur, il y a des films, d'auteur avec ce Fox Searchlight,
un studio indépendant.
Voilà,
un studio,
par exemple, Three Billboards, c'est une des grandes productions de
faux
Fox.
Studio indépendant, ce qu'on appelle les Specialized Units.
Exactement, bref, ouais. Et en plus, ils ont eu une très très bonne année de ce point de vue-là, Fox, sur l'année 2018. Il y a eu des grands films connus, donc, comme Three Billboards et La forme de l'eau de Guillermo del Toro, de mémoire, c'est ça, je crois. Donc, ça, c'est Fox Searchlight. Et donc, ça pourrait être proposé sur la plateforme Disney, ce qui pouvait pas être le cas auparavant. Donc on voit que maintenant ils ont un catalogue qui peut intéresser tout le monde, du plus jeune jusqu'au plus vieux, et ce que n'avait pas jusqu'à maintenant le groupe de Bob Iger. Netflix, en revanche, eux, bah, ils ont tout ce qu'ils veulent puisqu'ils partent de zéro et ils ont juste à se créer une base d'abonnés. Et puis surtout, ils n'ont pas une image de ligne éditoriale comme la Disney où la violence est proscrite, etc. Donc, et le sexe aussi, pour le coup. Donc Netflix peut aller sur des chemins et dans des scénarios que Disney aujourd'hui ne peut pas aller.
Non, mais ceci étant, la question que ça pose aussi, peut-être, c'est est-ce qu'on peut se contenter d'être uniquement un service de SVOD, ce qui est le cas de Netflix. Parce que le cas Amazon est assez frappant, c'est finalement, on est client Amazon Prime, il y a aussi ce service de vidéo, enfin, ça a été mis en place à partir de ce qu'était l'activité d'Amazon à la base, et ça s'est assis dessus, alors que Netflix partait d'absolument rien, ou Canal Play, qui au départ était une chaîne de télévision payante. Et on finit par se demander si finalement les acteurs qui ne sont que des services de SVOD sont pas justement un peu plus fragiles face à ce risque de d'abonnés qui passent éventuellement d'un service à l'autre, qui sont pas forcément extrêmement fidèles, etc.
Un mot, Emmanuel Paquette, sur Hulu à 7,99$ par mois. C'est un service connu essentiellement des Américains, pas vraiment des Français, puisque le service n'est pas disponible en France.
Parce que vous n'utilisez pas de VPN.
Parce que ça appartient en partie à... C'était essentiellement un service qui a été lancé par les majors du cinéma contre Netflix. Donc d'abord Disney, Warner et la Fox. Aujourd'hui, vu le rapprochement Disney-Fox, ce sera un service essentiellement appartenant à Disney et à Fox, ce qui veut dire que l'offre qui pourrait être lancée par Disney Fox sera en concurrence avec Hulu, ou alors Hulu va devenir l'offre Disney?
Aujourd'hui, on ne sait pas, puisque il reste quand même à peu près 30 à 40% du capital de Hulu qui seront détenus par Comcast, qui est un gros câble, le premier câble opérateur aux États-Unis qui a racheté Universal, qui lui-même était actionnaire d'Hulu. Donc je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais et donc au capital, on aura Disney Fox d'un côté et Comcast, le câble opérateur, de l'autre. Donc est-ce que Comcast va se contenter d'être actionnaire minoritaire de sa structure, ou est-ce qu'il va la revendre? Et si c'est le cas, Disney pourrait avoir 100% et utiliser Hulu comme plateforme pour attaquer le marché européen. Si c'est pas le cas, s'il y a un statu quo, il est fort probable qu'ils créent une autre plateforme dans laquelle ils aient 100% des parts et qu'ils le lancent rapidement sur le marché américain et européen. Mais autant, s'ils peuvent le faire, ne pas partir de zéro, puisqu'aujourd'hui Hulu aux États-Unis c'est à peu près 20 millions d'abonnés, donc c'est beaucoup moins que Netflix.
Mais hein, c'est une bonne base pour partir.
C'est 58 millions d'abonnés, mais c'est quand même une bonne base effectivement pour démarrer.
Pour terminer cette émission sur un tout autre sujet, Zoé Sfez.
On est trop loin. On allait vous parler peut-être un petit mot pour dire que une note de la DGSE et de la DGSI a été publiée en début de semaine, qui nous expliquait que la Chine fait de l'espionnage industriel via LinkedIn en créant des faux profils pour recruter des cadres français. Mais juste pour une question, une conclusion là-dessus, le présupposé de ce débat, c'est peut-être que personne ne sera capable de s'abonner aux 5 offres de SVOD 5, 6 qui existeront dans plusieurs années. Or, les derniers baromètres de Médiamétrie montrent que plusieurs de SVOD sont déjà, d'ores et déjà, des gens qui pratiquent plusieurs plateformes. Et que si on met bout à bout le budget que représenterait d'être abonné, le fait d'être abonné à 2, 3, 4 plateformes, c'est peut-être assez équivalent à ce qu'utilisaient comme budget des cinéphiles avec de la vidéo et du DVD auparavant, non ?
Alors, c'est un peu compliqué parce que dans le cas d'Amazon, Jeff Bezos lui-même lui dit que quand il a un abonné à Amazon Prime, il vend des paires de chaussures en plus. Donc le but de Amazon, c'est de faire du commerce en fait avec la vidéo. La vidéo, c'est une baguette de pain, c'est vraiment l'élément attractif, mais c'est pas le cœur du
modèle. Comme il a fait avec les livres au début, en fait.
Exactement. Donc l'idée, c'est d'attraper les gens pour qu'après ils soient accros à la livraison
au
Amazon.
Au grand supermarché. Ouais.
Exactement, et pas du tout à la vidéo. La vidéo, c'est juste un petit plus. C'est le côté sexy et paillettes, donc et qui coûte aujourd'hui en moyenne 4€ par mois, donc c'est quasiment rien. Et ça peut s'additionner à un autre abonnement.
Très brièvement, évoquons quand même cette question sur laquelle on reviendra dans Soft Power dimanche prochain, peut-être les uns les autres, sur ce que vous avez évoqué, Zoé.
Sur la Chine ? Sur la Chine, écoutez, espionnage industriel, en fait, c'est des informations qu'on avait déjà depuis assez longtemps, depuis 2017, je crois, au niveau européen. Mais effectivement, après avoir parlé du rôle des réseaux sociaux, et notamment de WhatsApp dans la campagne brésilienne, il serait intéressant de se pencher sur la place des réseaux sociaux, là encore, mais cette fois-ci, en termes d'espionnage industriel, je crois qu'on est sur 500 ou 600 faux profils chinois qui ont été créés exclusivement pour la France.
Amaël Guitton,
c'est
ça ?
Non, mais c'est assez intéressant parce qu'on voit comment le focus se déplace régulièrement. C'est-à-dire qu'autour de 2016, on a eu une séquence très piratage russe. et puis, ça continue, par ailleurs, évidemment. Et puis là, on revient, entre guillemets, un peu aux fondamentaux. C'est-à-dire que la Chine fait, oui, de l'espionnage industriel, et on le sait, et de manière à la fois furtive et massive, mais parce que tout le monde espionne tout le monde sur Internet tout de même.